20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Le Quatuor à cordes est à l'honneur en cette rentrée à Paris, alors que se tiendra dès vendredi jusqu'au 21 janvier la Biennale de Quatuor à cordes, biennale à laquelle participera notamment le Quatuor Modigliani, dont un nouvel enregistrement dédié à Grieg et Schubert sort cette semaine, vendredi très exactement, chez Mirare. Deux membres du Quatuor, Loïc Rio et Laurent Marfin, seront à cette occasion à notre micro tout à l'heure. Le temps de notre tour d'horizon de l'actualité musicale et d'un nouvel épisode de notre feuilleton dédié aux ateliers de l'Opéra de Paris. Le Requiem de Forêt devrait résonner à de multiples reprises en cette année 2024, anniversaire, centième anniversaire de la mort du compositeur français. Vous pourrez notamment entendre ce Requiem ce vendredi soir à l'Auditorium du Louvre, chanté par la maîtrise Notre-Dame de Paris avec l'Orchestre National Auvergne-Rhône-Alpes, sous la direction d'Henri Chalet, un concert donné en écho à l'exposition Le Trésor de Notre-Dame, qui se tient en ce moment et jusqu'au 26 janvier au Musée du Louvre. Si vous aimez la douceur foréenne, vous serez également touché par le récital que donnera la pianiste Olga Yegunova mardi soir, le 16 janvier, à Corto. Elle jouera en effet des pièces à caractère contemplatif, onirique. Le programme de son tout nouvel album, intitulé Slow, réunissant de brèves pages, lentes donc, de pas moins de 12 compositeurs différents, de Jean-Sébastien Bach à Arvo Pärt, en passant par Gluck, Liszt, Satie ou encore Péteris Vask, compositeur compatriote de cette jeune pianiste lettonne formée à Riga, qui s'est ensuite perfectionnée à Hambourg, puis au Royal College of Music de Londres. Olga Yegunova, une musicienne au parcours et aux affinités multiculturelles. White Scenery, paysage blanc, une pièce de Péteris Vask, qui figure donc au programme de cet album Slow de la pianiste Olga Yegunova, tout juste sorti chez Prima Classica. Olga Yegunova en récital mardi soir à Corto, dans un programme aux accents contemplatifs donc, mais qui s'achèvera dans l'exubérance avec la Rhapsody in Blue de Gershwin. Et on reprend ce soir notre visite des coulisses de l'Opéra de Paris en compagnie d'Alexandre Gaillard, le responsable des ateliers de décor de l'Opéra, qui nous emmène ce soir dans l'impressionnant atelier de peinture.
Vous êtes actuellement sur un tapis de manœuvre. En fait, nous venons de le changer, donc c'est pour ça qu'il est quasiment immaculé. Sur ce tapis-là, en fait, généralement, on vient peindre des toiles. Donc on a les tapissiers qu'on a vus qui étaient juste à côté, qui réalisent des toiles. Les toiles arrivent dans l'atelier, on les tend au sol. Et puis après, les peintres viennent placer un premier carroyage. et commencer à dessiner l'esquisse de la toile avec des fusains ou autre. Et puis après, ils procèdent à la mise en couleur dans le chantier. Alors, on a au-dessus de nous un pont équipé de projecteurs. Ces projecteurs, en fait, sont utilisés par les peintres lorsqu'il y a des éléments d'architecture sur les toiles. Il y a un premier travail qui est fait avant sur ordinateur. On prépare des images numériques qu'on vient projeter sur le sol. Et donc, les peintres viennent décalquer en fait ce qui est projeté. Une fois que tout est décalqué, que le fond est décalqué, on enlève les projecteurs et là on passe vraiment à l'application de la couleur et puis le traitement graphique. On a ce rapport au spectateur qui fait qu'on triche les proportions dans le décor de théâtre, de manière à ce que si on veut que l'œil du spectateur perçoive les détails d'une toile, il ne faut pas que les détails soient trop infimes. Et donc, en fait, tout ça fait partie de l'interprétation et de l'expérience du peintre de décor, qui d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, en fait, lorsqu'on peint des toiles, il ne travaille pas à quatre pattes. En fait, ils travaillent debout, les peintres sur toile. Donc, je vais vous montrer après les outils qu'ils utilisent. Ils ont des grandes brosses à manches, ils ont des pinceaux à manches, ils ont des fusains à manches. Alors, j'ai parlé de toile avec de l'architecture, mais de temps en temps, quand il y a des compositions florales, des paysages, là, on parle plus du tout d'architecture. Et donc, vous avez des peintres qui, avec un format A3 ou un petit peu plus grand imprimé, arrivent à avoir tracé une toile qui fait 21, 22, 26 mètres de large par 12 mètres de haut, avec une fidélité et une qualité qui sont impressionnantes. Voilà. C'est un des savoir-faire qui est très reconnu mondialement, en fait, un des savoir-faire des ateliers de décor, la peinture sur toile, qui a tendance à se perdre, puisqu'aujourd'hui, dans les scénographies, on veut beaucoup de lumière, beaucoup de vidéos, mais les scénographes, quand ils viennent ici, en fait, demandent à avoir plutôt, en général, des toiles peintes, parce que le rendu esthétique, l'accroche à la lumière, n'est absolument pas le même que sur des impressions numériques.
Petit clin d'œil à la Traviata de Verdi, dans la production mise en scène de Simon Stone, qui sera à l'affiche de l'Opéra de Paris en ce mois de janvier, dès le 21, avec, dans la distribution, Nadine Sierra, René Barbera et Ludovic Tézier.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Une riche rentrée pour le quatuor Modigliani, rentrée placée sous le signe de Grieg et de Smetana au disque, mais aussi de la Biennale de quatuor à cordes de la Philharmonie de Paris, dont le quatuor Modigliani est l'un des acteurs majeurs. Alors, deux membres du quatuor sont avec nous ce soir, le violoniste Loïc Rio et l'altiste Laurent Marfin. Bonsoir à tous les deux et bonne année.
Bonsoir Laure, bonne année.
Bonne année Laure.
Et bonne année à tous les auditeurs également.
Tous mes vœux pour cette année 2024 qui débute à peine et qui marque votre entrée dans votre troisième décennie, puisqu'en 2023 vous avez fêté vos 20 ans. Le quatuor Kronos, qui sera à l'honneur à la Philharmonie de Paris, a lui fêté ses 50 ans. Qu'est-ce que cela vous inspire les...
C'est vrai que c'est assez magique de pouvoir se projeter comme ça, et on s'imagine plutôt facilement se projeter 20 années de plus, peut-être 30 années, vu le répertoire et vu toutes les beautés qu'il y a à parcourir sur le répertoire du quatuor à cordes. Et puis on a cette chance aussi, c'est de tellement bien s'entendre que 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça ne nous fait pas peur du tout, au contraire.
Alors, vous avez effectivement un très large répertoire, un répertoire magnifique, particulièrement riche, particulièrement varié. Du coup, vous avez vraiment envie d'élargir vos horizons, comme vous le faites en enregistrant, par exemple, le quatuor de Grieg, Loïc.
Oui, tout à fait. C'est peut-être pas forcément là où on nous attendait après une intégrale Schubert. Et c'est vrai que le répertoire du quatuor, il est fantastique, presque quasiment infini. On a les grands classiques, je ne veux pas tous les citer, mais de Beethovenien, les romantiques allemands. Mais c'est vrai que voilà, on a aussi des merveilles. On s'aperçoit que c'est rare, quasiment, les compositeurs qui n'ont pas écrit une pièce, ne serait-ce qu'une toute petite pièce pour quatuor. Et ça intervient souvent plus dans des périodes de leur vie où ils sont, peut-être ils ont envie de se retourner vers quelque chose de peut-être un petit peu plus intime, nous parler peut-être plus personnellement de choses qu'ils n'auraient peut-être pas exprimées dans d'autres genres musicaux.
C'est vrai qu'il y a quelquefois beaucoup de douleur dans certains quatuors à cordes, notamment les romantiques.
Oui, souvent. C'est vrai que d'ailleurs, dans l'élaboration des programmes, c'est un équilibre qu'on doit choisir, parce que bon, c'est vrai que on ne veut pas avoir non plus que des spectateurs qui sortent déprimés de nos concerts.
Premier mouvement, du moins le début du premier mouvement du quatuor de Grieg, joué par le quatuor Modigliani, dont deux membres, Loïc Rio et Laurent Marfin, sont avec nous ce soir sur Radio Classique. C'est vrai que c'est un mouvement d'une grande ardeur, d'une grande force dramatique. Dès les premières mesures, d'ailleurs, comment aborde-t-on ce quatuor? Comment fait-on pour rentrer d'emblée dans cette dimension si dramatique?
Je crois qu'il faut arriver à s'imaginer... avoir une matière sonore beaucoup plus importante que celle qu'on a, nous, simple quatuor à cordes. On essaie de se projeter dans, à ce niveau-là, et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a eu l'idée aussi de le faire en quatuor élargi, en gros quatuor, avec d'autres musiciens, d'autres quartettistes qui se joignent à nous de temps en temps pour pour le faire, parce que c'est une œuvre qui se prête plutôt bien à ça.
Il y a une forme de grande majesté. On imagine vraiment les fjords norvégiens quand on a... Ben, nous, on a la chance de voyager quand même pas mal, donc on est allé du côté de Bergen et tout ça, et c'est vrai qu'il y a... cette grande majesté. Et c'est ça qui est passionnant dans le travail du Quatuor à cordes. On a 4 instruments, 16 cordes, et on doit à chaque fois retravailler, retrouver une patte sonore qui va être différente. Alors c'est sûr que Smetana et Grieg sont des quatuors qui sont composés à peu près aux mêmes périodes, mais il y a quand même des typicités de sons qui sont néanmoins différentes. Et enfin, en tout cas, qu'on a essayé de travailler un peu tous les jours, comme un cuisinier travaille ses sauces, ou je ne sais.
C'est vrai que c'est lié aux écoles nationales, c'est l'essor des écoles nationales à cette époque, à la fin du 19e siècle. Grieg, il n'a écrit qu'un seul quatuor, vous mentionnez quatuor numéro 1, il y en a un autre.
Alors, il y a un autre quatuor qui sont... il y a des esquisses, on dit qu'il a été aussi complété par un de ses amis, il est enregistré par, et c'est très chouette d'ailleurs aussi, par certains quatuors norvégiens particulièrement.
Alors justement, la musique de Grieg, les Norvégiens la jouent de façon complètement naturelle. On a l'impression que certains musiciens hors de la Norvège sont plus intimidés face à cette musique, puisqu'il n'y a pas tant d'enregistrements de ce quatuor de Grieg, en tout cas pas très peu récemment. Comment vous-même l'avez-vous découvert? Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette musique? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous plonger dans cette partition, Loïc?
En fait, c'est vrai que c'est curieux parce qu'on connaît évidemment le concerto pour piano, Berghint, et puis tout le répertoire pour piano, et cette œuvre-là paraît un peu en retrait. C'est pas forcément à celle-ci qu'on pense en premier quand on pense à Grieg. Et c'est relativement injuste parce que chacun des thèmes des 4 mouvements, enfin, nous paraît une mélodie comme si c'était évident qu'on la connaît finalement. Et notre découverte avec cette œuvre-là, moi je m'en souviens très bien, c'était en écoutant, en faisant des moments, on a des séances dans le quatuor où on écoute, chacun ramène un peu les disques qu'il aime, les quatuors qu'il aime, et c'était le Quatuor Guarneri, et c'était avec un ami qui possédait un disque, parce que les Guarneri l'ont enregistré 2 fois. Ce quatuor, ils l'ont enregistré à la fin de leur carrière, mais c'était également partie de leur premier disque. Et donc là, il y avait toute la vitalité finalement de la jeunesse d'un jeune quatuor, et là, ça nous avait passionnés. C'est vrai qu'on avait presque envie de le monter immédiatement, puis ça s'est pas fait, puis voilà, finalement, quelques 10 ans après, il est arrivé au répertoire.
En tout cas, on se réjouit de l'entendre. Ce quatuor de Grieg, vous l'avez associé au quatuor de Smetana, au premier quatuor de Smetana, une œuvre également très intime. 2 œuvres, 2 quatuors composés à peu près à 2 ans d'intervalle, mais en même temps de styles très différents. 2 œuvres qui commencent toutes les deux de façon assez dramatique. Laurent, le premier quatuor de Smetana aussi, on rentre dans le drame d'emblée.
On rentre dans le drame,
à l'alto.
Cet univers magique qui est l'alto, ce son intense et à la fois velouté et fois passionné, bref.
Un concerto romantique voilà. Pour alto.
Mais c'est vrai que c'est une œuvre dans laquelle on rentre tout de suite dans l'esprit de Smetana, et on voit que c'est une introspection qui va jusqu'à la fin du quatuor. On se rend compte que c'était pas facile pour lui. Et c'est une œuvre dans laquelle on s'est projeté, on s'est beaucoup imprégné aussi de tout cet univers qui pouvait être autour. Mais ce sont des œuvres qui sont pas énormément jouées, malheureusement, pas tellement programmées comme le Grieg dont on parlait juste avant, ce qui est malheureux parce qu'on vit un vrai voyage.
Mais en même temps, ce sont des œuvres qui sont tellement intimes. Le Quatuor de Smetana, c'est une œuvre quasiment autobiographique, d'ailleurs sous-titrée de ma vie. Il faut du coup entrer en profondeur dans l'âme, dans l'intimité du compositeur, ce qui n'est pas forcément évident, j'imagine.
Je pense qu'ils arrivent à une période de l'histoire de la musique où ils se posent beaucoup de questions. D'ailleurs, le premier mouvement du Smetana, c'est vraiment un appel du destin. Et moi, qu'est-ce que je vais apporter en tant que compositeur, quelque part? Puisque la musique dans cette fin 19e va commencer à bouger pas mal. Et ces compositeurs-là sont pas forcément reconnus pour être ceux qui ont fait les plus grandes avancées tonales ou métriques, etc. Donc ils ont cherché qu'est-ce qu'ils pouvaient bien exprimer. C'est pour ça qu'ils se sont retournés peut-être vers un folklore local, on va pas dire trop national, aujourd'hui on se méfie un peu de ces mots-là, mais en tout cas un régionalisme, et puis qu'est-ce qui les avait marqués dans leur enfance, et qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient eux, et au travers de formes tout à fait classiques quelque part là. Il y a une polka par exemple dans le quatuor de Smetana, ils arrivent à trouver, à nous parler d'eux-mêmes et de leur de leur intimité quelque part.
Et ils n'ont pas forcément eu le temps, et effectivement, de composer beaucoup de quatuors à cordes. Donc ils ont tout donné sur un seul quatuor. On a l'impression d'être vraiment dans le vrai dès qu'on écoute leur quatuor.
Deuxième mouvement du premier quatuor de Bidri Smetana, mouvement à la polka, dans l'interprétation du quatuor Modigliani, un magnifique enregistrement qui vient de paraître chez Mirare, dans lequel nous nous plongeons ce soir en compagnie de Loïc Riault et Laurent Marfin. Smetana et Grieg, associés dans cet enregistrement, deux compositeurs que vous allez jouer cette année, ces prochains jours, ces prochaines semaines en concert.
Tout à fait, là on va jouer très prochainement le Grieg, alors dans une version un petit peu originale.
Qui est référence Laurent tout
voilà,
à l'heure.
Exactement, avec plein d'amis quartettistes, de jeunes quatuors qui sont pour la plupart lauréats, premier prix des grands concours internationaux des deux, trois dernières années.
Voilà. Oui, Léon Corot, Hermès, Arod, Confluence, du beau monde, hein, voilà, avec
les
vous.
Barbicane aussi, Barbicane. Qui viennent de gagner la RD. Voilà, c'est un peu un feu d'artifice pour clore ce grand festival qui est important pour nous, qui est la Biennale des Quatuors à la Philharmonie de Paris.
Et vous jouerez juste avant le 19 janvier également à la Biennale, mais dans une forme plus traditionnelle, uniquement à quatre. Stravinsky, Shostakovich et Beethoven. La Biennale de Quatuor à cordes qui mettra à l'honneur, on le disait tout à l'heure, le Quatuor Chronos qui fête ses 50 ans, mais aussi toute cette nouvelle génération dont certains musiciens s'associeront à votre concert, le concert final en tout cas. Cette nouvelle génération, vous la connaissez bien, via Bordeaux, via le concours et le festival de Bordeaux, entre autres. Quel regard portez-vous sur ces jeunes musiciens, ces jeunes quartettistes? Qu'est-ce qu'ils apportent aujourd'hui au monde du quatuor?
Je pense qu'ils apportent beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'envie de découvrir cet univers du quatuor. Nous, on a eu la chance d'être poussé par des grands-parrains qui étaient vraiment installés où le quatuor à cordes n'avait pas non plus une image très populaire, on va dire, par rapport aux jeunes. C'était le temps du quatuor Isaïe. On n'était pas énormément, je me rappelle, à ce temps-là. Et puis, je sais pas, depuis, il y a eu une espèce d'engouement qui fait que énormément de jeunes musiciens veulent se frotter à cet univers-là. Et tous les jeunes qu'on voit aujourd'hui, ils ont une vraie passion, un vrai désir de découvrir et d'aller beaucoup plus loin dans ce travail-là. Et on a une chance, nous, énorme, c'est de pouvoir aujourd'hui aboutir un peu ce travail et approfondir un peu toute cette idée-là à l'école normale à Paris, dans laquelle on a réussi à monter une classe de quatuor à cordes. On invite 3 jeunes quatuors qui sont complètement invités, ce qui est quand même important aussi pour quand on est scolarisé.
Ils bénéficient d'une bourse.
D'une bourse, voilà, ils n'ont rien à débourser. Et on a un vrai suivi sur toute une année avec ces jeunes musiciens, avec lesquels on fait un travail approfondi. Chaque membre du quatuor, nous, Modigliani, voit tous les autres quatuors, ce qui fait que c'est un travail passionnant.
Oui, c'est beaucoup d'admiration parce que c'est un vrai choix qu'ils font. C'est de se dire, bah voilà, pour un collectif, pour un idéal de vivre à 4, on va, peut-être qu'il y a peut-être quelques sirènes. Moi, j'aurais pu aller faire un concert en sonate ici. Puis moi, il faut que je fasse mes heures pour le Pôle emploi. Donc je vais, entre guillemets, cachetonner dans tel ensemble, etc., etc. Puis c'est finalement, donc c'est vraiment un investissement moral, mais c'est un choix de vie. Parce qu'ils comprennent que finalement, le quatuor à cordes, c'est également un instrument en lui-même. C'est un instrument à 16 cordes qui se joue à 4. Et comme tout instrument, il y a un quotidien. Et si vous ne le travaillez pas pendant quelques jours, finalement, il faut tout de suite... on s'en met toujours un petit peu plus de temps.
C'est un travail qui est vraiment sur la longueur aussi. C'est pas quelque chose qu'on peut arriver à effectuer en quelques répétitions. Et eux s'en rendent compte tout de suite grâce au travail qu'on arrive à faire avec eux.
Voilà, vous avez 20 ans d'expérience dans le domaine du quatuor à cordes, vous entamez donc votre 3e décennie en cette année 2024. Alors il y aura ces rendez-vous à la Philharmonie de Paris dans le cadre de la Biennale de quatuor à cordes. Et ensuite, quels seront les moments forts cette saison pour le quatuor Modigliani?
Eh bien ensuite, au printemps, nous avons des amis du côté d'Arcachon où nous avons une petite carte blanche, un festival sympathique. Puis ensuite le Vibre,
le Bordeaux,
c'est Quatuor à Bordeaux, c'est un festival des masterclass. Le Quatuor Hagen est l'invité cette année. Le concours a lieu tous les 3 ans.
On est en
alternance avec d'autres concours européens et ce qui en fait une édition quelque part un peu plus festive finalement parce qu'il y a plus de concerts. Plus
de
non, voilà, exactement. Puis c'est une ambiance, il y a beaucoup de jeunes, donc voilà, je vous laisse imaginer l'ambiance. Et puis voilà, après on suit notre bonhomme de chemin de concert. Et puis
on vous retrouvera cet été, on s'en réjouit à Évian, grand retour du quatuor Modigliani à Évian, à la Grange Lac.
C'est un plaisir de retrouver la Grange Lac, tous ces nouveaux projets.
On retournera jouer avec Beatrice Arana, qui est une pianiste qu'on aime beaucoup.
Voilà, nous aussi, on l'adore, du classique. Merci infiniment Loïc Riault et Laurent Marfin. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2024 qui commence en beauté pour vous avec l'apparition de cet album chez Mirare qui associe les quatuors de Grieg et de Smetana. Merci beaucoup.
Merci Laurent.
Les dernières notes du quatuor d'Edvard Grieg dans l'enregistrement du quatuor Modigliani qui sort donc vendredi chez Mirare. Des musiciens du quatuor Modigliani que vous retrouverez en concert les 19 et 21 janvier à la Philharmonie de Paris dans le cadre de la Biennale de Quatuor à Cordes, cette biennale qui débute vendredi. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Toureau-Lassalle pour sa réalisation. Demain, nous serons avec deux jeunes musiciens, deux talents Adami, la soprano Camille Chopin et le violoncelliste Léo Ispire. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Excellente soirée à l'écoute de Radio Classique.